Alors après-midi, on va aller se promener au bord de l'eau et puis en faire un petit peu d'ascension de montagne. Ça va nous changer. Demandons à Marie, puisque c'est d'elle, c'est par elle et pour elle et en elle que nous allons essayer de nous situer pour qu'elle nous fasse devenir ses enfants bien-aimés de notre Père. Demandons-lui qu'elle nous aide. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors prenons d'abord quelques images, des images utilisées de manière assez classique par les pères de l'Église ou d'autres, par les spirituels, on va les glaner ici ou là. Quelques images qui vont nous aider à regarder ce que nous pouvons arriver à contempler dans le mystère de l'enfant bien-aimé du Père, quand il est vraiment ce qu'il est. Mais cette fois, Jésus, c'est le Fils éternel de Dieu. Marie, c'est une créature comme nous, immaculée, mais créature comme nous. Alors que Jésus est le Fils bien-aimé du Père, il est Dieu. Marie n'est pas une déesse, non. Elle est la petite fille bien-aimée de notre Père bien-aimé. Alors c'est l'image de l'étang, on va aller tous chez Émile, à condition qu'il n'y ait pas des petites bébêtes au-dessus. Mais imaginez un étang, un bel étang de montagne, par un temps particulièrement calme. Il n'y a plus aucune ride à la surface de l'eau. Eh bien, le ciel, les montagnes, se reflète dedans d'une manière absolument étonnante. Et il y a même des photos qui sont prises où on ne sait plus où est la montagne, à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors ça, c'est l'image du silence dans notre vie de prière, le silence intérieur. Alors ce silence intérieur, il est l'état dans lequel toutes les facultés de l'âme et du corps sont complètement en paix. C'est un don de Dieu. La paix, l'Esprit Saint, le silence, ça va bien ensemble. Non seulement nos facultés, mais elles sont non seulement tranquilles, en paix, mais recueillies, concentrées et parfaitement vigilantes et libres de toute action divine. C'est pour parler de Marie, on emploie quelques images. Alors quand la surface du lac est tout à fait calme, le ciel se reflète parfaitement, comme les arbres de la rive. Et tout est aussi distinct que dans la réalité. Alors nous commençons à comprendre qu'à la fois c'est en Dieu et à la fois c'est sans confusion, dans une fusion d'amour étonnante. Alors une autre image qui peut être aussi utilisée, c'est toujours avec de l'eau. Hein? Si jamais on remue un petit peu l'eau, ou s'il y a quelques poissons très énergiques à l'intérieur, ils font monter la vase à la surface et on ne voit plus rien dans l'eau. L'eau est troublée, comme on dit. Alors que si tout est déposé au fond, si véritablement l'eau alors est absolument transparente, et on a quelquefois des photos, surtout avec le livre de Xavier Le Pichon, des fonds de mer absolument d'une beauté. Là, c'était par rapport au ciel, maintenant c'est par rapport à la profondeur. Hein? Soit le ciel se reflète d'une manière absolument étonnante, soit les profondeurs sont absolument contemplées au travers de cette eau, à la condition bien sûr qu'elle soit parfaitement calme et parfaitement paisible. Ça pourrait être une manière d'illustrer « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Donc, aussi longtemps que l'âme n'est pas en repos, il ne peut y avoir de vision de Dieu. Mais quand la paix nous a permis de nous trouver en présence de Dieu, alors un autre genre de silence, beaucoup plus absolu, intervient, le silence de l'âme. Alors c'est là que, bien sûr, il ne faut pas se limiter, les personnes handicapées profondes peuvent aussi refléter, hein, quelque chose de cette paix-là. Mais des moines ou des moniales, burinés par un long temps d'ascèse, peuvent offrir effectivement, même si elles ne le savent pas, le visage qui reflète quelque chose de la paix de Dieu. Donc, un autre silence beaucoup plus absolu intervient, c'est le silence de l'âme, qui n'est pas seulement tranquille et recueilli, mais à qui la présence de Dieu impose respect et adoration. Ce n'est pas privilégié à quelques bonnes âmes dans quelques bons monastères. Ça, c'est la vocation chrétienne. Elle est vraiment proposée pour chacun. Saint Athanase dit que la montée de l'homme vers la déification, parce que nous sommes appelés à être divinisés, il ne faut pas que nous l'oublions. Notre vocation, c'est d'être Dieu par participation, pas moins que ça. Il dit que notre montée vers la déification commence au moment même où on est créé. Dès cet instant, Dieu nous donne la grâce incréée qui rend possible l'union avec lui. La première parole de Dieu qui nous tira du néant fut notre premier pas vers l'accomplissement de notre vocation, qui est que Dieu soit tout en tous et que nous soyons en lui comme il est en nous. Ça, c'est le langage tout simple de saint Paul. Comme la bien-aimée attend son bien-aimé en vue d'être reçue en lui pour lui être unie et ne plus faire qu'un avec lui, le premier pas est de nous tenir devant Dieu et attendre que se révèle en nous cette présence de Dieu. Or Dieu est au plus intime, il est dans le secret, il est là. Il est là qui voit notre désir de lui. Il n'est pas extérieur à nous, Dieu. Dieu est intérieur à nous. D'où il nous faut entrer en nous-mêmes, trouver la chambre secrète et la porte secrète de notre âme et découvrir à l'intérieur le royaume de Dieu. Creuser ainsi s'appelle la prière. Alors, nous allons nous promener au bord de la mer. Comme le sel est tiré de la mer, nous sommes tirés de Dieu. Jésus vient du Père, il a pris chair humaine de Marie, et il retourne vers son Père, emportant notre humanité déifiée. Marie, l'épouse, est épousée par Dieu dans le mystère de son Assomption, et nous sommes en marche vers cette même finalité, l'union à Dieu. On a déjà cité saint Ignace. « En moi, dit-il, coule une source, viens vers le Père. » À la fois Dieu se dit un feu dévorant, mais il est aussi l'agneau sauveur qui porte le péché. Quand nous nous situons devant lui, en révérence, nous le rencontrons comme l'ami le plus intime. Et si nous prenons l'attitude familière devant Jésus, doux et humble de cœur, nous nous pouvons le trouver. Mais cette fois, avec Marie-Madeleine, il nous dira « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. » Autrement dit, il est le plus intime à moi-même que je suis intime à moi-même, et en même temps, il est toujours dans ce clair-obscur où véritablement il faut m'apprivoiser à sa présence et il faut véritablement devenir de plus en plus proche de lui. Il est à la fois connu et il est à la fois inconnu. Il se révèle lui-même et c'est dans la mesure que nous le connaissons. Mais nous ne le connaissons jamais complètement. Il y aura toujours le mystère divin. Parce que Dieu est personne, Père, Fils et Saint-Esprit, et que nous sommes une personne, et qu'on ne peut pas épuiser une personne, ce n'est pas possible. Celui qui dirait qu'il a épuisé l'autre, qu'il le connaît parfaitement, il en aurait fait une idole. Donc nous partageons avec lui, dans la communion de lui, ce qu'il est dans la mesure où il est communicable. Quand il se fait pain de vie, la petite Élisabeth ce matin qui faisait sa première communion. Alors, que se passe-t-il entre une petite enfant et le Dieu trois fois saint qui se fait pain de vie et l'un et l'autre en leur rencontre? Cette petite fille ne le sait même pas. Et ça peut se révéler dans 15 ans pour elle. Ah, le jour de ma première communion, à l'occasion d'un éclair, il lui est donné de revivre ce qu'elle a vécu ce matin et qu'elle ne connaît pas elle-même. C'est très étonnant ça. C'est très, très étonnant. Quand il se fait pain de vie, apparemment, c'est nous qui le faisons disparaître en nous. En réalité, c'est lui qui progressivement nous fait disparaître en lui. Pour moi, dira Paul, vivre, c'est le Christ. Et comme le sel dira que sa vie est d'être dans la mer, Jésus dira, vous êtes le sel de la terre. Cependant, notre vie est cachée en Dieu comme le sel est caché dans la mer. Alors voilà une petite histoire bouddhiste. Une poupée de sel, après un long pèlerinage à travers les terres arides, arrive au bord de la mer. Qui es-tu ? La mer. Mais qu'est-ce que c'est la mer? Ben, c'est moi. J'y arrive pas à comprendre, dit la poupée, mais je voudrais bien. Touche-moi, dit la mer. Alors la poupée avance timidement un pied et touche l'eau. Elle éprouva une étrange sensation que cette chose-là. Et cette chose-là commence à devenir connaissable. Elle retire sa jambe, elle vit que ses orteils avaient disparu. Elle fut effrayée et dit « Oh, mais où sont passés mes orteils? Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Et la mère dit « Tu as donné quelque chose afin de pouvoir comprendre. » Progressivement, l'eau grignota les petits fragments du sel de la poupée. Et celle-ci avança de plus en plus loin dans la mer. Mais plus elle avançait, plus elle avait l'impression de comprendre mieux, sans pourtant être capable de dire ce qu'était la mer. En s'enfonçant, elle fondait de plus en plus en répétant « Mais qu'est-ce que c'est la mer ?» À la fin, une vague fit disparaître ce qui restait d'elle. Et la poupée dit « C'est moi. C'est moi la mer. » Elle avait découvert ce qu'était la mer, mais elle ne savait pas encore ce qu'était l'eau. C'est une image. Saint Maxime. Tout ça, c'est pour entrer dans le mystère de Marie, c'est pour nous détendre. Parce qu'après, on fait la montagne, après. Saint Maxime utilise l'exemple de l'épée au rouge, faut dire au blanc même. L'épée ne sait pas où le feu s'arrête, et le feu ne sait pas où l'épée commence. Et soit l'on peut dire qu'on coupe avec du feu, ou on peut dire qu'on brûle avec de l'acier. La fusion sans confusion. Et c'est bien plus que ça encore. Ça, c'est le mystère de l'humanité et de la divinité indissolublement unis. Alors, quand nous entrons dans la connaissance de Dieu, nous ne nous contentons pas de connaître Dieu, mais nous nous connaissons nous-mêmes en même temps. Et plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons Dieu, plus nous nous connaissons nous-mêmes. Mais nous devenons unis, nous demeurons un mystère. Et cependant, nous savons que nous sommes là, mis en sécurité, mystérieusement. Bon, encore une petite histoire de saint Augustin, vous la connaissez bien, hein, saint Augustin, il a parlé de la Sainte Trinité d'une manière étonnante. Et puis à un moment, il se promène au bord de la mer, hein, en faisant comme nous en ce moment, en réfléchissant à tout ça. Et puis il voit un petit gamin qui a fait un trou avec son doigt dans le sable. Puis il a un coquillage. Il prend l'eau de la mer, puis il met l'eau dans le petit trou. Et puis saint Augustin, intrigué par ce gamin, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ben, tu vois, monsieur, je prends tout l'eau de la mer, puis je mets tout dans mon petit trou. Ah, voilà notre situation. Mais, dit le grand Augustin, tu n'y arriveras jamais. Et le gamin qui lui répliquait, toi, tu crois que tu comprendras la Sainte Trinité? Alors maintenant, nous avons ce qu'il nous faut pour entrer dans le oui de Marie. Ce matin, on a essayé de regarder « Ne nous fais pas entrer dans la tentation. Empêche-nous de rentrer dans la tentation. » Alors, que se passe-t-il en Marie l'Immaculée qui n'est pas entrée en tentation? Voilà. C'est par son oui. Et c'est par son oui que Marie échappe à toute attaque du menteur. Si Marie est le reflet de Dieu, c'est en lui, Dieu, qu'il faut chercher l'origine du oui de Marie. Or, c'est Jésus qui est le oui du Père, et il n'a toujours été que oui, c'est la parole qui le dit. Et c'est l'Esprit Saint qui réalise en Jésus le oui. Et c'est encore lui, l'Esprit Saint, qui réalise en Marie son oui. Alors, chaque fois que nous parlons de Marie, du oui de Marie, nous sommes les enfants de Marie et nous pouvons prendre son chemin. Tout ce qui est à la mère appartient à l'enfant. Donc Marie, dès l'origine, est reliée à l'Esprit Saint d'une manière tout à fait unique et tout à fait personnelle. L'Esprit Saint, ne l'oublions pas, c'est une personne divine. On peut dire même c'est la personne au-delà de toutes les personnes, puisqu'elle est la personne qui personnalise, alors que le menteur est dépersonnalisé et va dépersonnalisant sans cesse. C'est la caricature inversée. Donc elle est reliée personnellement dans sa personne immaculée Elle est déjà oui à l'origine et elle ne demeurera qu'un oui. On pourrait définir son Immaculée Conception comme ce oui d'une certaine manière. C'est dans son oui que Marie découvre la plus grande liberté. Un enfant, il croit qu'il est libre quand il dit non. Eh bien, il montre qu'il est aliéné quand il dit non. On n'est jamais si libre que quand on dit oui. À de condition, bien sûr, que ce oui soit un oui éclairé. Par un instinct divin, sûr, elle s'abandonne à Dieu, au Dieu de son salut depuis toujours. Elle le redit dans son Magnificat. En Dieu, mon sauveur. Anne et Joachim seront ses protecteurs dans un monde hostile au oui à Dieu. Ah, le monde d'Israël, c'est un monde de pécheurs, et en plus, qui le sait. La parole de Dieu viendra mettre des mots sur son oui à Dieu. Et Joseph lui-même, dans son désir, rejoint pour Marie son oui au bon plaisir de Dieu. Le oui à Dieu et le oui à la créature, en tant que le oui de l'un et de l'autre sont dans le oui de Dieu, vont dans le même sens. Donc dans son amour pour Joseph, son amour pour Dieu s'épanouit. C'est tout simple. Il n'y a pas deux amours, il n'y a qu'un amour. Il y a l'amour de Dieu qui porte en lui tous les amours. Ainsi Marie est le reflet du oui de Dieu, du oui à la vie, du oui à la lumière, du oui à l'amour. Parce que quand Dieu forme ce monde, il dit oui à ce monde. Quand Dieu crée chacun de nous, il dit oui à ce que nous sommes. Oui. Si nos parents n'ont pas dit oui le jour où ils nous ont conçus, Dieu était le oui qui était avant le oui de nos parents. Avant de te former dans le sein de ta mère, je t'ai façonné. Donc c'est Dieu, notre vrai papa, c'est Marie, à la suite de Jésus qui nous sauve, qui est, ou dans le Christ Jésus qui nous sauve, qui est notre oui, bien plus que le oui de nos parents, qui est beaucoup plus accidentel. C'est pour ça que, quelle que soit la manière dont on est venu au monde, c'est Dieu qui est le premier qui a choisi que nous venions au monde, parce qu'il nous a choisis de toujours. Donc on pourrait dire que Marie est constituée par son oui. Il remplit tout en elle et il lui donne une manière d'être unique, d'être l'Immaculée. Dans son oui, Marie est la plus libre de toutes les créatures. Son oui fait d'elle un abandon d'elle-même total et dans cet abandon, une ouverture à l'autre qui est Dieu d'abord et en lui, un abandon à tout autre. Sa vie est ainsi une vie reliée, une vie religieuse. Quand on parle du religieux, de quoi parle-t-on? De ce qui est relié à Dieu. Elle échappe ainsi au monde sans aucun lien avec l'égoïsme, sans aucun lien avec la domination de l'autre, sans aucun lien avec le retour mortel sur soi-même. Marie est pure ouverture. Ne nous soumet pas à la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas flirter avec le menteur. Non, garde-nous dans ce oui de Dieu. Donc l'enfance de Marie fut tout accueil, et c'est en disant oui à la vie que Marie s'apprête à recevoir le don de Dieu. Mais c'est déjà ce don de l'Esprit Saint qui lui donne de se préparer à le recevoir. Tout ce que nous avons vient de Dieu. On l'a déjà regardé ensemble. Et dans ce sens, le oui de Marie est une grâce. Et les images qu'on a prises tout à l'heure. L'eau n'est pas la montagne qu'elle reflète. L'eau n'est pas les paysages merveilleux qu'elle donne, mais elle donne de les porter. En même temps que Marie s'accueille elle-même, elle accueille le don de Dieu qui lui est fait d'être elle-même. Elle accueille la grâce qui l'a fait être ainsi. Et dans cet accueil, elle prépare déjà l'accueil de tout ce qui lui sera demandé dans l'avenir. Et il y a une petite poupée qui commence à mettre son pied et qui passera tout entière. L'Église nous le fait prier. C'est ta grâce, prie-t-on dans une des oraisons, c'est ta grâce qui nous prépare à accueillir tes grâces. Quand l'ange du Seigneur se présente à Marie, certes, Marie ressent l'effroi, le trouble devant la présence de l'au-delà, mais en même temps, elle est préparée par la grâce dont elle est comblée pour recevoir cette annonce. Elle ne va pas tomber par terre, non, elle fera face. Sa vie, dès l'origine, est en harmonie pour recevoir cette annonce. Sa vie est en harmonie avec la vie qui lui est proposée. Marie est déterminée dans son oui de toujours et son oui à la vie à venir encore. Son oui est abandon, confiance. Elle compte en Dieu bien plus qu'en elle-même. Elle sera ce que réalise la grâce en elle. Elle peut donc se laisser ouvrir à la grâce dans la faiblesse la plus grande, celle qui ne compte que sur Dieu, et aussi dans la fermeté que lui donne cette confiance totale en Dieu. La toute petitesse de Marie est proportionnée à la plénitude de sa grâce. C'est parce qu'elle est pleine de grâce qu'elle est toute petite. Et c'est parce qu'elle est toute petite qu'elle est pleine de grâce. Elle est d'autant plus petite que la grâce est puissante. Son oui vient à la fois d'elle et il vient de l'Esprit-Saint qui la couvre de son ombre. Et en effet, Marie sera là dans l'obscurité de la foi la plus grande. Dans ce sens-là, elle est tout à fait de notre peuple. Ce n'est pas parce qu'elle est immaculée qu'elle a la vision béatifique, certainement pas. Elle est dans la foi la plus absolue. Plus le soleil de l'amour l'enveloppe, plus l'obscurité de sa foi est grande, car la lumière du soleil divin éblouit le regard humain. C'est donc dans la foi la plus pure, ça veut dire la plus noire, dans l'obscurité la plus totale, que Marie s'en remet à Dieu dans son esprit, dans son cœur et dans son corps. L'Esprit Saint, qui demeure en elle et qui la couvre de son ombre, lui permet de dire son oui dans la plus grande liberté. Là, le oui de Dieu rencontre le oui de la créature dans la liberté et l'authenticité la plus belle qui soit. Or, c'est à cela que nous sommes appelés. Ce oui d'amour touche à l'infini. Le oui de Marie est contenu dans le oui de Dieu, mais déjà, pourrait-on dire, le oui de Dieu est déposé dans le oui de Marie. La parole de Dieu, qui est donnée au cœur de Marie dans son attente, est éclairée par l'Esprit Saint. C'est encore le même Esprit Saint qui va élargir le consentement de Marie dans un oui qui va prendre tout ce qu'elle est, son cœur, son corps, son esprit. Marie, en prononçant ce oui, s'anéantit devant Dieu. Et la petite poupée qui entre dans la mer. Et ce Dieu qui va agir en elle comme il le veut. Son oui est total. Marie livre ainsi à Dieu toutes les possibilités de son être. Son être qui lui a été donné par Dieu. C'est Dieu qui va lui en dire toutes les disponibilités, en la prenant à son service divin. Mais dans ce oui, Marie renonce à tout elle-même. À tout elle-même. Elle renonce à son amour pour Joseph, pour l'amour de Dieu. L'amour qui unit, c'est l'amour qui sépare. Je ne sais plus si c'est ensemble En tous les cas, c'est ce que nous avions médité le jour où Élie est emporté au ciel et séparé des Élysées. C'est une très belle image. C'est le feu de l'amour de Dieu qui a uni Élie et Élysée. Et Élysée n'est pas prêt de lâcher Élie. Il ne faut pas moins qu'un char de feu qui les sépare et un tourbillon qui emporte Élie. C'est Élie. Et Élysée, qui a demandé une double part de l'esprit et qui a le manteau d'Élie, fera ce que faisait Élie. C'est vraiment étonnant. Le feu d'amour qui unit est aussi le feu d'amour qui sépare. Afin qu'il n'y ait jamais de confusion. Une fusion d'amour sans confusion. Et c'est valable au niveau scientifique pour les métaux. Vous burinez deux métaux ensemble dans le feu. Le jour où vous voulez les dessouder, il faut les remettre au feu. Donc elle renonce à son amour pour Joseph, pour l'amour de Dieu. Elle renonce à son amour pour la parole qu'elle lisait jusque-là sans la connaître, pour l'amour de Dieu. Elle renonce à son peuple qui pourra ne pas comprendre jusqu'où va cet amour infini de Dieu. Et les obscurités dans lesquelles il faut pénétrer pour entrer dans la lumière. Dans ce oui, Marie renonce à tout ce qui n'est pas Dieu. Et c'est dans ce renoncement même que Marie obtient tout. Nous avons Saint Jean de la Croix dans son petit chemin, là, nada, nada, nada. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, il ne reste rien. Il ne reste qu'un petit chemin où on abandonne tout. Et quand on a tout abandonné, dit-il, on retrouve tout. C'est absolument merveilleux. Donc elle obtient la réalisation de toutes les promesses au-delà de toute espérance. Et quand elle ne peut rien, Dieu lui donne le pouvoir tout. Elle devient la mère du Seigneur. Et Marie ne pose aucune condition. Elle se dit simplement la servante, alors qu'elle sera, qu'elle est maintenant la mère de Jésus. La mère qui est aussi l'épouse, aimée d'un amour infini. Et chacune de ses perspectives s'ouvre à l'autre dans un rayonnement d'amour infini. Elle est la mère, elle est l'épouse, elle est l'enfant. En Dieu, tous les amours arrivent à une plénitude que nous ne pouvons pas imaginer. Marie a oublié toute prudence, elle devient la Vierge prudente. C'est à Dieu qu'elle a confié son oui. Elle a cherché le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu lui est donné au centuple. Mais c'est Dieu qui désormais prend l'initiative dans sa vie. Cette fois, elle est noyée totalement dans l'amour de Dieu. C'est le Dieu infiniment petit qui se constitue en elle à la manière d'un embryon. Et nous retrouvons Jacquier dans la toute petitesse. Et nous, nous aurons à passer par cette matière pour arriver à être et à devenir ce que nous sommes. C'est le Dieu Tout-Puissant dans sa toute petitesse qui prend la direction des opérations qui se vivent en sa mère. Et biologiquement, c'est déjà possible. Les mamans le savent bien. Mais ce tout petit est lui-même abandonné à l'engendrement de son père. C'est très mystérieux ça, très mystérieux. Saint Irénée, pour le Fils, être et naître sont identiques. Le Père engendre son Fils sans cesse, sans cesse, sans cesse. Eh bien, Marie devient le lieu de l'engendrement pour lui donner un corps qu'il portera toujours. Jésus est dans la gloire avec le corps que Marie lui a tissé. Et ce corps, eh bien, il habite ce tabernacle et il habite le cœur d'Élisabeth. Donc ce tout petit est lui-même abandonné à l'engendrement de son Père. Il ne peut rien sans lui, comme Marie est le sein de son éclosion, le lieu où il prend vie désormais corporellement. Et Dieu pourra habiter corporellement. La divinité habitera, c'est Paul qui le dit, corporellement dans le Christ, de manière absolument incroyable. Le véritable Saint de Dieu qui engendre le Fils est l'Esprit Saint. C'est ça qui est très, très étonnant. Et c'est la communion de Marie et de l'Esprit Saint qui réalise la plus grande merveille que l'univers ait portée, le corps du Christ. Cette coopération de Marie et de l'Esprit Saint manifeste la plus grande dépendance voulue et choisie de Marie envers son Dieu. Marie, non seulement offre sa volonté à Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole, mais encore la manière dont cette volonté va se réaliser, la manière dont Dieu va réaliser le oui qu'elle donne à Dieu. Et dans ce sens, elle est toute livrée au Dieu qui se livre à elle. Sans arrêt, vous avez ce mouvement où Dieu se donne à la mesure où la créature se donne. Ainsi, le Père prend sa petite fille en lui, dans son amour, dans l'Esprit Saint, et elle devient la mère de son Fils unique, et en lui, écoutons bien, et en lui de tous les enfants de Dieu. Tandis, la manière dont Marie opère pour elle-même et pour Jésus sera la manière dont chacun de nous va être enfanté. On ne peut pas échapper. Grignon de Montfort l'a dit à sa manière, d'autres l'ont dit à leur manière, mais c'est une question de vivre et d'être, ou de ne pas vivre, ou de ne pas être. C'est la manière que Dieu a choisie pour lui, et c'est la manière qu'il choisit pour nous, si nous voulons être l'enfant bien-aimé de ce Père bien-aimé. Donc ce creuset d'amour, c'est le sein de Marie et le sein du Père. Ils sont le lieu où s'origine désormais notre foi en la vie, notre foi, notre espérance et notre amour. C'est de là que nous tirons notre naissance. Dans ce don de Dieu, nous sommes à jamais établis et nous pourrons trouver la vie. Dans le oui de Marie et le consentement de sa foi. On a toujours dit en Église, Marie a porté Jésus dans le oui de sa foi avant de le dire dans le oui de son être tout entier. Elle lui abandonne tout, croyant en lui plus qu'en elle. Et sa foi va se muer en espérance, car elle peut lui abandonner même le contenu de sa foi. Et la manière même dont cette foi va prendre corps en elle, va prendre vie. Marie se sait bien trop petite pour prendre une initiative d'amour. C'est encore sa foi qui lui dit que son amour est don de Dieu à l'origine. Et c'est dans cette origine que va se développer tout son amour tel que Dieu l'a voulu, de toujours à toujours, dans son amour pour elle. Et là, nous sommes en dehors de toute tentation possible et imaginable. Nous sommes absolument soustraits à tout mouvement qui ne va pas dans ce sens-là. Et pour trouver la vie, il faut entrer dans ce mouvement-là. Ce que je dis cet après-midi, c'est la manière de ne pas être soumis, de ne pas se soumettre à la tentation. C'est d'entrer dans ce mouvement-là. Ainsi, dans l'humanité de Marie offerte à Dieu, en toute liberté d'amour, Dieu va pouvoir faire son œuvre d'amour, l'engendrement de son Fils bien-aimé. Et en lui, dans ce lieu d'amour avec Marie, qui est cette humanité offerte, l'engendrement de tous ceux et de toutes celles qui ont cru en lui et qui, en Marie, vont désormais prendre corps et prendre vie. On ne va pas se promener sur la montagne pour le plaisir, même si ce n'est pas si mal. On y va pour trouver la vie et savoir le chemin de notre vie. À tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais comme il est devenu enfant de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Voici ta mère, voici ton fils. Ceux-là ne sont pas nés par le sang, ni par un vouloir de chair, ni par un vouloir d'homme, mais ils sont nés de Dieu. C'est de nous dont il s'agit. Je sais bien, les exégètes diront qu'on peut le mettre au singulier et au pluriel. Et c'est bien comme ça, parce que au singulier, c'est véritablement de Jésus dont il s'agit. La manière dont Jésus nous est donné, mais au pluriel, c'est la même manière dans laquelle nous sommes, nous aussi, trouvant la vie. Voilà la nouvelle adoration en esprit et en vérité. Alors on voit comme toutes les approches successives que nous avons commencé à marquer nous situent vraiment dans le cœur du Père. C'est là notre lieu, il n'y a pas d'autre lieu. Et c'est là le lieu de notre prière avec Jésus, en lui, par lui et pour lui. Claire d'Assise, au XIIIe siècle, écrivait à Agnès. Alors il y a une grande amitié entre Agnès et Claire. Devant tant de joie admirable, qui pourrait me dire ne te réjouis pas? C'est vrai que ce n'est pas une fuite pour se soustraire au monde. C'est une manière d'entraîner le monde dans la vie. C'est pas du tout pareil. Dieu, il est avec ses enfants bien-aimés, le tout petit qui lui bégait son amour. Oui, il est là, Dieu. Alors toi aussi, sœur très chère, réjouis-toi dans le Seigneur, dame très aimée dans le Christ, joie des anges et récompense de tes sœurs. Ne laisse pas les choses amères, ni le brouillard t'envelopper. Voyez ? Certes, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez dans la joie aussi avec ceux qui sont dans la joie. Mais à la fois notre vie, elle est avec Marie, dans une compassion totale, mais dans une exultation non moins totale. Toujours les deux mouvements. Alors, voilà la citation de Saint-Clair qui continue pour arriver au miroir. Place ton esprit devant celui qui est le miroir éternel. Alors, on vient de découvrir le verre à cette époque-là. Hein? Le verre qui reflète l'image de la mer ou de l'étang qui reflète. Cela permet de fabriquer des miroirs. Je ne sais pas comment on faisait avant, mais en tous les cas, maintenant, on a des miroirs. Et que montre le miroir? Eh bien, il renvoie l'image bien plus précise et lumineuse. Or, le Christ, dit Claire, le Christ est l'image parfaite du Père. Et le miroir, elle le fera marcher devant la Sainte Eucharistie. De manière à repartir de ce qui est donné dans ce pain de vie, jusqu'à ce mystère où Jésus se donne, jusqu'à celui qui le donne, jusqu'au Père. Par contemplation successive. Parce que pour Claire, c'est le miroir de la Sainte Eucharistie. Mais par la Sainte Eucharistie, elle remonte dans la personne de Jésus, bien entendu, là où il est donné, là où il se donne, de cette manière-là. Ainsi le Christ est le parfait miroir du Père. Nous sommes le miroir du Christ. Oui. Nous sommes dans ce lieu-là. Ce n'est pas réservé à quelques personnes, non, c'est nous, chrétiens. Nous sommes le miroir du Christ, mais bien plus intérieur que la réalité matérielle qui le signifie. Si le miroir est l'objet qui nous renvoie l'image qu'on lui montre, le Christ en Marie, dans notre regard de foi, réalise en nous l'icône du Christ, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ben voilà. Notre foi, comme la foi de Marie, nous met dans ce lieu-là et nous donne la vie, nous donne l'existence. Jésus a été porté dans sa foi avant d'être porté dans la chair. Qui me voit, dit Jésus, voit le Père. C'est en Jésus, formé en Marie, que se réalise maintenant notre identité de chrétien. Du Christ. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Il est difficile à Nicodème, un vieil homme, d'entendre Jésus lui dire qu'il faut renaître. Renaître, moi je veux bien renaître. Mais comment renaître? Alors il ira jusqu'à lui dire, lui, le sage d'Israël, mais comment veux-tu qu'un homme comme moi rentre dans le sein de sa mère? Enfin, il matérialise, mais le pauvre il n'a pas d'autre chose à dire. Or, c'est le sein de Marie et le sein du Père qui offrent cette nouvelle vie divine. Et dans ce oui inconditionné de notre foi, nous pouvons désormais entrer dans ce mystère de renaissance. Après Jésus, Marie est la plus éprouvée, donc celle qui peut nous venir le plus en aide. Son cœur immaculé et douloureux peut recevoir notre prière, car le secours de Dieu nous est donné dans l'union des cœurs de Jésus et de Marie. C'est dans ce lieu-là que se joue notre sanctification. Dans ce cœur de Jésus uni au cœur de Marie, voilà le creuset de notre formation, voilà le creuset de notre être, voilà le creuset de ce que nous sommes. C'est là que se trouve notre salut et le salut de l'humanité. Le oui de Marie est une grâce qui vient de Dieu et qui agit en elle. Dans son oui, prend chair Jésus, son salut. Mon esprit exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. Et dans cette union divine va prendre corps désormais tout oui donné à Dieu. Ainsi prend corps en moi la réalité des noces de Cana. Fais tout ce qu'il vous dira. Or, ce qu'il nous dit, voici ta mère. Voilà ce qu'il nous dit. Pour qu'elle puisse nous former, enfants bien-aimés de notre Père des cieux, ce Père bien-aimé. L'alliance divine, le cœur de chair de Marie, va prendre en formation notre cœur pour le faire entrer désormais dans l'alliance de son cœur avec le cœur de Jésus. Oui et rédemption sont intimement liés. Ce mystère s'origine dans le premier oui de la créature contenu dans le oui du Seigneur. Ce qui est très étonnant, c'est que Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Et en même temps, nous sommes très relatifs par rapport à l'action de Dieu. Mais en même temps, même si nous sommes relatifs, nous sommes nécessaires. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas nous sauver sans lui, ça c'est bien évident. Marie a dit oui à l'ange. Sa promesse se trouve ainsi réalisée dans ce oui. Mais elle va bien au-delà de tout ce qui pouvait être prévu par elle. Dans le oui total de Marie pourra s'épanouir le oui total de Dieu. En disant oui à l'ange, Marie dit oui à Dieu en toute liberté, mais tout en Marie est désormais soumis au Dieu de son salut. Son oui contient tout l'avenir. Et immédiatement, nous le voyons bien, du oui de l'Annonciation, nous arrivons au oui de la crucifixion. Et Marie porte dans son oui de l'origine tout ce qui va advenir à Jésus quand il nous donnera la vie. Elle le porte. Ce sera son épreuve. Mais dans son oui à Dieu, Marie dit oui à elle-même. C'est dans son oui à Dieu qu'elle trouve son être même. Et son oui de l'Annonciation qui se prolonge dans son oui de la croix en fait d'elle véritablement, d'une manière cette fois la plus étonnante qui soit, l'épouse de ce crucifié. Et dans ses noces nouvelles va naître l'enfant Jean. Et dans cette alliance de Jean et de Marie va naître l'Église, c'est-à-dire chacun de nous. Tout ce qu'elle est vient de Dieu et tout ce qu'elle est retourne à Dieu. Elle est à la fois la petite fille engendrée du Père dans son Fils. Elle est, avec l'Esprit Saint, le lieu de l'engendrement du Fils dans son humanité. Et dans cette maternité, elle nous porte, chacun de nous, sauvés par son Fils, sauvés par Jésus. Alors il nous faut, là où nous en sommes, quand nous disons « Délivre-nous du mal, fais-nous sortir de l'esclavage. » Quand nous disons aujourd'hui, en plus, « Ne nous fais pas entrer en tentation », nous avons l'antidote. Voilà. Comment ne pas entrer en tentation ? Eh bien, demeurer en lui. Comment demeurer en lui sans savoir regarder celle qui, la seule et l'unique, a su demeurer en lui ? Et en demeurant en lui, elle porte en elle le Fils bien-aimé. Et dans ce Fils, elle devient la petite fille du Père. Et petite fille du Père, elle devient non seulement l'épouse, mais la mère. Et la mère de l'Église, la mère de chacun de nous. Et voilà le lieu de notre enfantement, la prière, devenir l'enfant bien-aimé du Père.